imaginer une situation. Imaginons que Jésus ait décidé de revenir sur Terre, hors l'enlèvement, bien sûr, pour voir une dernière fois son Église. Pour la voir une dernière fois, faire passer un message. Et il décide en plus de prendre, il choisit l'Église de Wavre. Bien sûr, là on peut parler de la salle et tout. Et justement, ça a été fait hier, ça a été nettoyé. Il peut venir là. Puis pas n'importe comment, c'est grâce à l'aspirateur Cobalt. Donc il peut venir. Et donc il viendrait, il s'assoit. Puis voilà, il me dirait, ben voilà, mon église, j'ai tellement de choses à vous dire, mais j'ai pas assez de temps. Allez voir simplement la fourmi, et vous allez en tirer des enseignements. Genre, il se lève et il part là-haut. Bon, bien sûr, il lui dit, je reviens bientôt, gardez un peu la foi, la dernière fois, je reviens. Bon, c'est une histoire imaginée, mais en fait, c'est ce qu'il nous dit dans la parole de Dieu. Dans Proverbes, chapitre 6, versets 6 à 8. Il nous dit, va voir la fourmi paresseuse. Observe son comportement et tu en tireras une leçon de sagesse ou tirer une leçon d'enseignement. Et va voir la fourmi, c'est... Oui. Va voir la fourmi, c'est un commandement. Tout comme tu ne tueras point ou tu aimeras ton prochain, va voir la fourmi, c'est un commandement. Donc, je suis allé voir la fourmi, et en hiver, il n'y en a pas. Ils dorment tous. Donc, merci à Frédéric Jamy pour de ce pas sorcier, pour les émissions. Et en regardant comment fonctionne la fourmi, j'ai pu en tirer 4 enseignements. Et donc, on ne va pas tous les voir aujourd'hui. Hein. Mais aujourd'hui, on va voir le premier. Et donc, le premier, ça va être « La fourmi est l'œuvre de son créateur. » Ensuite, on verra que la fourmi regarde à son créateur. Et troisièmement, on verra la puissance de l'humilité, puisque la fourmi seule, c'est naze, quoi. Mais ensemble, elles font des ravages. Et enfin, la fourmilière, un exemple pour l'Église. Donc, la fourmi, c'est quoi? De façon simple. La fourmi, c'est un tout petit insecte, donc de taille 0,5 cm. Durée de vie entre 2 mois et 2 ans. Et pour la reine, ça sera entre 10 et 15 ans. Lorsque on regarde une fourmi, en fait, la fourmi, c'est naze. Elle est pleine de faiblesses. Elle est petite. Lorsque vous la prenez sur votre doigt, elle est là et elle panique. Elle est méprisée par le monde. À tout moment, on peut venir la piétiner. Si elle s'introduit chez nous, on les éradique tout de suite. Et même Dieu dira d'elle que c'est un peuple faible, dans Proverbes chapitre 30. Donc, c'est des fois difficile d'imaginer que Dieu a créé des faiblesses dans sa création. Il y a de la faiblesse dans la création. Et si on zoome même sur son visage, on peut voir même qu'elle est moche. Et peut-être que dans le monde des insectes, dans le monde des insectes, on se moque d'elle, on dit toi t'es moche. Mais malgré toutes ses faiblesses, la fourmi elle a des capacités qui lui sont propres. On sait que c'est une experte en communication, experte en architecture. Et ici, on a déjà tous vu les fourmis chercher des récoltes. Et ici, on voit que ici, on a donc des fourmis qui portent des récoltes, et les fourmis peuvent porter jusqu'à 20 fois leur poids. Et donc, ça voudrait dire qu'à taille humaine, un homme de 80 kg porterait 1600 kg. Une voiture en moyenne pèse 1250 kg, donc ça voudrait dire que chacun d'entre nous pourrait porter sa propre voiture sur son dos. Donc, la fourmi, qui est si faible, finalement, elle est beaucoup plus forte que chacun d'entre nous. Et comment elle peut arriver à ce stade-là? La réponse est que la fourmi, elle est l'œuvre de Dieu et elle a été créée comme cela. C'est une grosse révélation. Mais nous sommes également l'œuvre de Dieu. Œuvre de Dieu en tant que créature, mais œuvre, Dieu va œuvrer en nous, va créer une œuvre spirituelle. En Ecclésiaste 3, verset 19, il est dit, car après tout, le sort des humains est identique à celui des bêtes. Ils meurent les uns comme les autres. Un même souffle les anime tous. L'homme n'a aucun avantage sur l'animal, car tout passe. Un même souffle les anime tous. Ici, le souffle, c'est le souffle de Dieu, le souffle du Saint-Esprit qui donne la vie, qui anime tous les êtres vivants. Et donc, tout comme les fourmis, nous sommes issus du même Créateur. Et donc, en regardant à la fourmi, voici, en tant qu'œuvre de création, voici trois principes qu'on peut en tirer. Le premier, c'est que Dieu, tout comme la fourmi, que la fourmi est l'œuvre de Dieu, nous sommes une œuvre créée par Dieu, mais une œuvre spirituelle. Et ça va se faire par un processus qui se fera en plusieurs étapes. Et tout ça prend du temps. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Donc, on va voir la vie de la fourmi. Une fourmi, c'est quoi sa vie? Là, ici, elle naît de la reine, donc elle est conduite par la reine, dans la chambre royale. Et tout de suite, elle va être emmenée dans la pouponnière. Dans la pouponnière, c'est là où on entrepose tous les bébés. Et elle va être prise en charge par les fourmis nourricières. Les fourmis nourricières, ce sont ceux qui s'occupent de la première génération. Et donc, au début, c'est un œuf. Et là, elle va devoir être retournée plusieurs fois par jour par rapport à des histoires de température pour que l'œuf garde une température constante pour son bon développement. Ensuite, elle va devenir une larve. Et là, la larve va devoir être nourrie par les fourmis nourricières plusieurs fois par jour. Et elle va se gaver pour grandir et devenir forte. Et ensuite, elle va devenir une nymphe. Et là, en stade de nymphe, elle ne fait que dormir. Elle ne mange plus du tout, il faut la laisser se reposer, elle fait que dormir pour grandir. Tout ce processus dure 40 jours. Une fois ce processus terminé, elle devient enfin une fourmi. Et sa première fonction, ça va être fourmi nourricière. Donc soit dans la pouponnière, soit dans la chambre royale pour s'occuper de la reine. Ensuite, quand elle va grandir, d'autres fonctions vont lui être données. Et elle va être envoyée beaucoup plus loin dans la fourmilière. Donc soit pour construire des loges, pour construire des galeries, ou pour faire l'isolation de la fourmilière, etc., etc. Et ensuite, enfin, le dernier stade de sa vie, c'est être envoyé à l'extérieur pour soit être une fourmi combattante, donc qui va protéger la fourmilière, soit, pour être là dans notre cas, être envoyé à la récolte pour aller récolter des ingrédients. Et donc, qu'est-ce que cela nous montre? Premièrement, que déjà pendant 40 jours, la fourmi ne sert à rien. Elle est dans un processus de croissance et elle ne sert à rien à la fourmilière. Ensuite, que dans le deuxième stade de sa vie, où elle est en fourmi nourricière, elle va apprendre à travailler pour son peuple dans des conditions qui lui sont les meilleures, c'est-à-dire la chambre royale ou la pouponnière, parce que c'est l'endroit le plus sécurisé de la fourmilière, le plus ventilé, où il y a la meilleure température. Donc elle va apprendre à travailler et dans les meilleures conditions. Ensuite, elle va être envoyée beaucoup plus loin dans la fourmilière et elle va devoir apprendre de nouvelles capacités. Capacité de communication, capacité d'orientation. Et enfin, dernier stade de la vie, être envoyée à l'extérieur. Donc en fait, on envoie les fourmis les plus âgées. Mais en réalité, c'est là où c'est le plus dangereux. À cause des ennemis, où il ne faut surtout pas se perdre. Et c'est là où elle va devoir restituer toutes ses capacités qu'elle a apprises durant sa vie, en termes de communication, d'orientation et notamment là dans porter du poids pour aller récolter les ingrédients. Toutes ces capacités vont être mises à contribution, ça va être non seulement au bénéfice de sa vie, puisqu'elle peut être en danger, mais aussi au bénéfice de la vie de la fourmilière, car si aucune fourmi ne parvient à récolter, toute la fourmilière sera en danger. Donc tout cela nous montre que pour arriver à cette belle capacité, ça prend du temps et c'est par plusieurs étapes. Et nous, c'est pareil. Dieu est l'architecte de toute la création. Dans les proverbes, la sagesse dira qu'elle était là aux côtés du Créateur et que la sagesse était à côté et elle était comme un architecte. Et un architecte bâtit des plans, prépare des plans pour une construction. Et ici, Dieu, en tant que Créateur, a tenu à nous montrer ses plans. C'est dans Genèse 1. Genèse 1, il est plan du Créateur. Et on va regarder du coup à Genèse 1. Et les plans. Et on va voir que Dieu a voulu nous montrer quelle œuvre il va faire en tant que Créateur dans nos vies. mais d'un point de vue spirituel. Donc on va voir quelques jours qui correspondent à des étapes de notre vie. La première chose qu'on peut voir, c'est que, en général, Dieu n'a pas créé tout d'un claquement d'eau. Dieu a créé en plusieurs étapes. Le premier jour, c'est la lumière est créée. On va relire le texte en Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre est alors informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le premier jour. La question est, pourquoi Dieu a créé la lumière en premier? Pourquoi il n'a pas, par exemple, créé le soleil en premier, qui est source de lumière? Ici, ça démontre l'œuvre spirituelle. La lumière, on sait que ça, c'est Jésus. Jésus est la lumière du monde. Et notre cœur était, avant de recevoir Jésus, comme cette terre, elle était chaos et vide, remplie de ténèbres. Et si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, alors ton cœur est comme cette terre, chaos et vide, remplie de ténèbres. Mais le message de l'Évangile, c'est que Jésus est venu pour mourir à la croix pour toi, pour que si tu l'acceptes comme ton sauveur, si tu crois à sa mort et à sa résurrection, il va venir dans ton cœur pour chasser les ténèbres. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu peut créer une œuvre en toi, une œuvre spirituelle. Et Dieu nous dit dans sa parole que des projets remplis de beaux projets, remplis d'espérance sont prévus pour toi. Donc, mais tout commence par la croix. Donc en réalité, tout le reste de ta vie n'est que grâce, parce que tout démarre depuis la croix. Donc la lumière représente Jésus et qui chasse les ténèbres. Et ensuite, on va passer par des étapes, mais c'est aussi des cycles. Bien sûr, les semaines se répètent, et dans notre vie, alors quand je parle d'étapes, dans le jargon chrétien, on parle aussi de saison. Et donc, parfois, ça ne veut pas dire qu'on a passé le jour 1, on n'y reviendra plus. On reviendra au jour 1. Le jour 1 représente aussi des temps de stérile. On est un peu comme cette terre où tout était stérile, et Dieu va couper toutes les ressources, et on sera comme cette boule de terre qui sera complètement stérile. Et seule la présence de Jésus dans les temps de désert sera présent. Donc ça représente aussi ces temps-là. Jour 2, Dieu sépare les eaux d'en bas avec les eaux du ciel. Ça, c'est des temps, des étapes, des saisons où Dieu va nous emmener dans des conditions spéciales pour nous séparer les choses charnelles, les choses d'en bas, avec les choses spirituelles, les choses du ciel. Jour 3, Dieu va créer la flore. Dans un premier temps, il va créer l'herbe, la semence. L'herbe, dans la Bible, ce sont les premiers fruits que le salut apporte, le premier source de bénédiction pour nous-mêmes, mais qui est appelé à être source de bénédiction pour les autres. L'herbe a une croissance rapide, mais très fragile. Au moins, un coup de chaleur, elle peut briller. Par exemple, dans la Bible, tout au long de la Bible, l'herbe, on le retrouve à plusieurs fois. Dans les évangiles, le seul miracle qui est relaté dans les quatre évangiles, c'est la multiplication des 5 pains et de poissons pour les 5000 personnes. Et à 3 reprises, dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, dans Matthieu, Marc et Jean, il y a ce détail-là, que Jésus vit qu'il y avait de l'herbe. Et c'est pour cela qu'il a fait poser les gens, pas sur n'importe où, mais sur de l'herbe. L'herbe représente dans notre vie les premiers fruits que le salut va apporter dans notre vie pour être source de bénédiction pour les autres. Ensuite, Dieu va, dans ce troisième jour, implanter des arbres. Les arbres, contrairement à l'herbe, sont beaucoup plus longs à faire grandir. Ils doivent être taillés. Et chaque arbre devait porter du fruit selon sa semence. Et les arbres représentent, dans notre vie, les dons que Dieu a implantés dans notre vie. Les dons prennent du temps pour grandir et ont besoin d'être travaillés. Peut-être que les premiers fruits ne seront pas bons, ne seront pas parfaits. Mais chacun a reçu un don de Dieu, ou plusieurs dons, et doit être appelé à porter du fruit, selon la semence qu'il a reçue. Ça veut dire que si je suis un pommier, je dois donner des pommes, et pas des bananes. Peut-être que mon voisin doit donner des bananes, mais moi je dois donner des pommes. Donc chacun a un don différent qui est appelé à porter du fruit. Et on va passer comme ça les jours, donc qui représente les saisons de notre vie, et jusqu'au jour 6. Et au jour 6, Dieu crée l'homme, donc il termine aussi les animaux, mais il crée l'homme, et il dit quoi ? Créons l'homme à notre image. Et ici, dans Genèse 1, Adam sera créé. Et on sait que dans le Nouveau Testament, il y a le premier Adam et le dernier Adam. Le dernier Adam, c'est Jésus. Et ici, l'œuvre que Dieu va créer en nous a pour toujours objectif final de nous faire ressembler à l'image de son Fils, Jésus. Et donc, c'est dans Romains 8, verset 28, qui nous le dit. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier d'un grand nombre de frères. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est dans quelle étape, dans quelle saison se situe-t-il ? Nous, se situe. Ou dans quelle étape l'Église, dans quelle saison l'Église se situe-t-elle ? Et pourquoi c'est important de se poser ces questions-là ? Parce qu'on est dans un monde, et on est des êtres humains, et on n'aime que tout aller vite. Il faut vite la bénédiction, il faut vite la guérison, il faut vite les miracles, il faut vite grandir. Et le but n'est pas de passer les étapes. Si on est au jour 1, il ne faut pas vouloir aller tout de suite au jour 6. Il y aura des étapes intermédiaires. Le but aussi n'est pas d'être nostalgique. Lorsque nous sommes dans des temps de désert, comme le jour 1, le but n'est pas de se rappeler et de vivre dans le passé en se disant « Ah, les époques où nous étions des sources de bénédiction, comme au jour 6 ou au jour 7, ah, ça, c'était bon. » On peut remercier le Seigneur pour ces temps-là, mais nous sommes appelés à continuer. Le but aussi n'est pas de rester bloqué dans les saisons de confort. Lorsque nous sommes au jour 6 ou au jour 7, nous sommes, et que Dieu veut nous faire passer par des temps de désert et revenir au jour 1, nous ne devons pas rester dans ces zones de confort. Dieu a prévu un plan et il faut poursuivre ce plan. Et enfin, nous ne serons pas comme le peuple d'Israël qui a tourné pendant 40 ans, et au lieu de 2 ans ou très peu de temps. Le but n'est pas de tourner en rond, mais de continuer à marcher avec Dieu pour pouvoir aller jusqu'au bout de son œuvre qu'il a préparée d'avance. Le deuxième point, donc en lien avec la fourmi et Genèse 1, Dieu vit que c'était bon à chaque étape. Donc ça veut dire que lorsqu'il a créé la fourmi, le fait que ce soit un œuf, une nymphe ou une fourmi grossière, etc., Dieu a à chaque fois regardé la fourmi et il a dit « ça c'est bon ». C'est pareil avec la terre. Généralement, Dieu a dit au jour 6, ou au moment où presque tout était créé, à la fin de jour 6, tout a été créé, il dit « ça c'est bon ». Mais on oublie qu'au jour 1, c'était juste une boule de boue avec une lumière, et Dieu dit quand même que c'est bon. Donc vous prenez une boule de boue, vous la posez par terre, vous mettez une ampoule et vous dites « ça c'est bien ». Alors, soit l'art abstrait a été créé à ce moment-là, mais pourquoi Dieu a pu dire que c'était bon ? En fait, Dieu a évalué le jour 1 dans l'ensemble du processus de création. C'est-à-dire, l'étape 1, le jour 1, même si c'était une boule de boue avec une simple lumière, c'était bon parce qu'il allait avoir le reste. Dieu est le commencement et la fin. Il connaît le début, mais il connaît aussi la fin. Et donc, chaque étape est bonne pour notre vie, tout comme la fourmi. Même quand elle est une nymphe et qu'elle ne fait que dormir, ça c'est bon pour elle. Et le problème chez nous, c'est que nous avons notre regard d'être humain. Nous ne regardons qu'à ce qui brille. Et donc nous aurons tendance à regarder que des jours où nous sommes bénis ou que des jours où tout va bien. Et là, nous sommes au top de notre forme. Mais quand nous passons par des temps de désert, là, nous sommes au plus bas que terre. Il faut adopter le regard de Dieu par la foi et à travers ce que la parole de Dieu nous dit sur nos saisons. Et c'est-à-dire que le but est de garder une constance. Parfois, il faut aussi accepter que tout n'est pas parfait, que notre vie n'est peut-être qu'une coupe de boue avec une simple lumière, que les fruits que nous porterons ne sont pas parfaits, que nous ne sommes pas parfaits. Et lorsque nous nous regardons à nous-mêmes, nous aurons peut-être tendance à nous considérer comme misérables parce que nous sommes qu'une simple boue de boue. Mais Dieu nous regarde et dit « ça c'est bon ». Alors pour essayer d'illustrer un petit peu comment Dieu peut dire « ça c'est bon », alors que c'est une simple boule de boue, j'ai essayé de prendre l'illustration de la vie courante. Ça, c'est un dessin bonhomme patate. Généralement, tout le monde l'a déjà dessiné, ce bonhomme patate. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction des parents quand un enfant fait ce dessin. Souvent, la réaction des parents, ça sera « Waouh, mais que c'est beau ça, c'est pour moi !» Alors que si on regarde la qualité du dessin, c'est moche et c'est horrible. Alors, pourquoi les parents disent « Waouh » Parce qu'en réalité, on a fait la même chose que Dieu, au jour 1, il dit que c'est beau. En réalité, on n'a pas évalué la qualité du dessin. On a juste évalué le dessin dans son contexte. On sait que c'est un enfant de bas âge. On sait que on a regardé l'intention du cœur. On sait que l'enfant a pris ses meilleurs outils, peut-être ses meilleurs crayons, ses meilleurs feutres. Ils n'étaient peut-être pas bien taillés. Les feutres n'allaient pas bien. Mais il a fait avec ce qu'il avait aussi. Et Dieu fait la même chose avec notre vie. Peut-être que notre vie, c'est comme un bonhomme patate, où les choses que nous faisons, c'est de la qualité de bonhomme patate. Et pourtant, Dieu nous regarde et il fait « Waouh, ça c'est beau, ce que j'ai créé. » Et donc, n'essayons pas d'être plus perfectionnistes que Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit chercher la médiocrité, mais nous ne devons pas chercher à être plus perfectionnistes que Dieu. Et enfin, dans le troisième principe, dans l'œuvre de la création, c'est que Dieu est l'architecte de notre vie. C'est lui qui a conçu les plans d'avance. C'est lui qui a décidé que la fourmi devait passer par tous ses stades de croissance pour arriver à sa pleine capacité. Et Dieu a prévu pour chacun d'entre nous des plans conçus pour chacun d'entre nous. En Philippiens 2, verset 13, il est dit « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. » Toujours dans ce principe-là, donc toujours sur Genèse 1 aussi, on voit que Dieu crée la lumière premier jour. Et sixième jour, il crée les animaux. Avec le cinquième jour, parce que les poissons. Mais sixième jour, il crée tous les animaux. Et pour avoir des chiffres, au niveau des animaux, au jour d'aujourd'hui, les scientifiques ont estimé qu'il y aurait 10 millions d'espèces d'animaux, dont 2 millions qui sont connus et 8 millions non connus. Alors, il faut toujours analyser les chiffres. Donc, ça veut dire qu'il y a 10 millions d'espèces. Donc, on peut dire que Dieu, en tant que créateur, est créatif. Voilà, en un jour, il a créé des millions de choses différentes. Ce qui est incroyable aussi, c'est qu'il y a des scientifiques qui se sont amusés à calculer de 0 à 2 millions des espèces. Mais, grâce à leur patience, on a ces chiffres. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'ils ont réussi à calculer de 2 à 10 millions des choses qui n'existaient pas. Des espèces qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne connaissent pas de nom. Alors comment on y fait ? Ça s'appelle la science. Et comme ils sont scientifiques, ils doivent être plus intelligents que moi. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est premier jour, une chose, sixième jour, des millions de choses. Et quand on passe par des temps de désert, on a l'impression que tout est stérile et qu'il ne se passe rien. Et pourtant, Dieu est à l'œuvre, il crée peut-être qu'une chose. Peut-être cette chose ne se voit pas pour le moment, mais par la foi, parce que Dieu nous l'a démontré dès la Genèse 1, Dieu est à l'œuvre et peut-être la chose qu'il est en train de travailler est utile pour le reste de son projet. Et dans les saisons où nous sommes bénis, où tout se multiplie chez nous, et surtout on est source de bénédiction, on peut aussi, par la foi, croire que Dieu peut faire bien au-delà de ce que nous espérons. Car il est un créateur créatif, il peut créer des millions de choses en une seule journée. Donc pour reprendre juste les trois principes de ce message, donc toujours par la foi, et la foi c'est par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu nous dit sur notre vie, comprendre que nous ayons des saisons, des étapes de croissance. Adopter le regard de Dieu sur nos saisons et non pas notre propre regard. Et enfin, que Dieu est à l'œuvre dans chacune de nos saisons, dans notre vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'être le créateur de l'univers, de toutes choses. Merci pour ces fourmis qui est un exemple pour notre vie. Merci pour aussi l'ensemble de la création, que ce soit la flore, la faune, pour nous montrer toute ta beauté, pour nous montrer que tu es créatif et que Tu dépasses bien au-delà de notre intelligence, Seigneur. Et que quand nous sommes dans des difficultés, nous pouvons aussi nous appuyer sur ta création pour contempler ta beauté et nous motiver, nous garder dans ce que tu es, Seigneur. Que tu es puissant, tu es le Elohim, le créateur puissant de l'univers. Merci parce que tu crées en nous une œuvre, parce que grâce à ton sacrifice, Jésus, tu es venu mourir à la croix pour moi, pour nous tous, et que tu es venu à la croix pour non seulement pour pardonner nos péchés, pour que nous sommes réconciliés avec toi, mais que tu es venu mourir à la croix pour créer en nous une œuvre qui est appelée à avoir de beaux projets, des projets tellement beaux, des projets remplis d'espérance, des projets qui sont appelés à bénir, à être une source de bénédiction pour les autres. Mais tout ça, c'est l'œuvre de ta grâce. Nous sommes peut-être comme des bonhommes patates, nous sommes si imparfaits, mais toi, tu nous regardes et tu nous dis, waouh, ce que j'ai bien fait est tellement bon. Alors, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci.